Ben, son nom, là.
Moret.
Ouais, en tout cas, ce nom-là.
Moret.
Ben, je sais pas, il m'inspire.
Live.
En vacances.
Live.
Radio X.
Merci d'être avec nous. On surveille ce qui se passe sur les routes, évidemment. Peu importe où vous êtes, si vous voyez quoi que ce soit, écrivez-nous au 88-670-9098 pour nous dire ce que vous voyez sur les routes dans la grande région de Québec. On le sait, le mois de juillet, c'est toujours un peu plus simple, seul l'est ce matin. Un petit peu d'attente à cause d'un accrochage ou un incident, je vais le dire de même. C'est pour les gens qui arrivent de la 73 pour l'accès au pont Pierre-Laporte. À hauteur de Taniata dans les deux directions, capitale également, direction ouest dans le secteur Henri-Bourassa, le boulevard Laurier, c'est vraiment les points chauds actuellement dans la région de Québec. C'est la super vente chez Super C. Cette semaine, le bœuf haché mi-maigre est à seulement 4,99 la livre. C'est jusqu'au 8 juillet seulement chez Super C. Étienne Alexandre Beauregard, comment ça va?
Ça va très bien, vous-même.
Numéro un, merci. Numéro un. Tu lâches jamais, hein? On est toujours en train de travailler, toujours en train de faire un document. Peux-tu virer un peu son micro, Camille, pour qu'il parle?
Oui.
De la même, ça va être parfait.
Ouais.
Ouais. Hey, tabarnouche, là, tu sonnes comme une tonne de briques. Là,
hey boy.
Là, on aime ça.
Ah, moi, je pensais que j'allais avoir un écouteur à deux oreilles pour l'été, puis c'est en train de me lâcher. Ah, fait que je suis pas une référence sur le son.
Non,
ça va.
On va passer une commande, Camille.
Pas le choix, moi aussi.
On parle de garderie, Étienne Alexandre, parce que le système garantit pas une place à tous les enfants. Puis, tu sais, c'est un peu l'objectif qu'on a depuis que Pauline Marois a été ministre des Familles, quelque part dans les années 90. Là. Est-ce qu'il est parfait, notre système de garderie?
Ben non, il est pas parfait. Parce que, tu sais, dans le fond, si on regarde un peu le big picture, comme on dirait en bon chinois, là, il y a deux manières, en général, dans le monde où les gens vont financer un système de garderie. En fait, les États vont le financer. Soit on va donner de l'argent aux parents, en leur disant, ben regardez, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez l'établissement qui correspond le mieux à votre enfant, ou vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez
ou
que
vous
ça soit.
À maison.
Exact. Vous faites le choix qui vous plaît. Ou, à l'inverse, on va financer les établissements directement, puis l'argent donc passe pas par les parents. Puis si tu es capable d'avoir une place, ben, de fait, tu as du financement. Si tu n'es pas capable d'avoir de place, ben, un peu tant pis pour toi. Puis c'est ça, en fait, le problème du système québécois en ce moment. Parce qu'on choisit de faire passer tout le financement par les établissements, ben, ceux qui n'ont pas de place en établissement, puis c'est le cas depuis 30 ans, là, jamais l'offre a répondu à la demande, se trouve un peu laissé de côté. Puis en plus, ça, c'est le côté ni universel, parce que l'étude s'appelle ni universel ni équitable, c'est le côté que c'est pas universel, même si on promet, là, c'est dans la loi maintenant, on dit, ah oui, tout le monde a un droit à une place en service de garde, mais c'est un droit qui a jamais été appliqué de l'histoire du réseau. Fait que c'est un peu difficile à soutenir comme ça. Puis le côté pas équitable, c'est que, en fait, l'équivalent de la subvention que vous allez recevoir comme parent pour votre enfant va vraiment varier selon le type d'établissement que vous fréquentez. Hein? Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on sait très peu parce que c'est caché, parce que des fois, il va avoir un coût unique de 9,65 ou un crédit d'impôt. Mais quand on regarde en arrière du capot, là, si on veut dire, si vous avez une place en garderie subventionnée ou en CPE, l'État verse à peu près 60 à 70 par jour pour votre enfant en arrière du rideau, là. Mais si vous avez une place en milieu familial ou encore si vous avez le crédit d'impôt pour une garderie non subventionnée, dans les faits, la subvention crédit d'impôt ressemble plus à 35 par jour. Et si vous êtes sur une liste d'attente ou vous décidez justement de faire garder votre enfant par un membre de la famille, exactement, ben à ce moment-là, vous avez zéro.
Zéro.
Fait que c'est ça le côté qui est vraiment pas équitable puis que souvent, on sait pas parce que justement, le coût bas fait en sorte qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe en arrière. T'sais.
Là, on s'en va en campagne électorale. On va parler de famille, on va parler de place à garderie, puis au moins, je dirais au moins 4 parties sur 5 qui vont promettre d'augmenter les places à garderie subventionnées. C'est des promesses qui seront pas capables de réaliser, mais ils vont le faire pareil. Ils vont nous dire ça d'en face, ils vont nous dire ça à TV. Est-ce que c'est la solution?
Bien, ça peut certainement pas être la seule solution. Parce que, comme tu dis, ils promettent ça à chaque année, à chaque 4 ans, puis il faut quand même leur donner ce qui leur revient. On réussit souvent à en créer à peu près à chaque année des places. La fin, c'est que la demande augmente plus vite que l'offre. Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on peut regarder puis dire, OK, mais dans le fond, la garde d'enfants, là, c'est pas mal plus large que des places subventionnées. Pis surtout quand on regarde le portrait du réseau en ce moment pour les enfants de 1 à 4 ans, donc ceux que le RQAP s'applique plus, là, ça j'exclus 0 à 1 an, il y a juste 47 % des enfants qui fréquentent soit une garderie subventionnée, soit un CPE. T'en as 20 % qui fréquentent pas un service de garde reconnu. T'en as une trentaine qui sont soit en garderie non subventionnée, soit en milieu familial.
Ouais.
Fait que, tout ça pour dire que quand on met seulement le projecteur là, sur les garderies subventionnées, on ne parle même pas de la moitié des enfants.
Non.
Fait que ça, il y a quand même un gros angle mort à ce niveau-là. Puis surtout, il y a une question qui se pose en ce moment, c'est est-ce qu'on est capable d'élargir cette offre-là subventionnée pour toujours, considérant que au niveau de la diplomation dans les programmes en éducation à l'enfance, ça n'arrête pas de baisser. On était, avant 2021, là, à un plateau d'à peu près 800 diplômés par année. Là, ça a baissé graduellement.
Là, tu parles d'éducateurs. Là.
Oui, exactement. Ben, parce que ça prend des éducateurs si
ben
on veut
oui,
faire
non,
des services
ça,
de garde.
Exactement,
hein?
T'as raison.
Et quoique...
Ben, c'est là ouais, que le modèle, il y a plusieurs vitesses. Hein? Fait qu'il y en a qui n'ont aucun diplôme. Puis moi, j'ai un exemple à la maison. Ma mère fait ça depuis 25 ans. Là. Et jamais à l'école pour ça, c'est un milieu familial qui s'est fait reconnaître dans les dernières années avec la pandémie, parce que c'était ça où elle fermait. En étant travailleuse autonome, puis je pense que Nick sait de quoi je parle aussi, en étant travailleuse autonome, elle ne pouvait pas être ouverte, mais si elle avait une reconnaissance du gouvernement, une accréditation, ben là, là c'était correct, c'est un service essentiel. Tu sais, il y a eu vraiment un clash aussi dans les dernières années qui fait qu'on se perd un petit peu dans le système québécois. Là.
Puis l'autre affaire, c'est la réglementation aussi, parce qu'effectivement, chez nous, il y avait une garderie privée où les parents pouvaient avoir un crédit d'impôt pour pallier justement au fait que c'est pas subventionné. Mais là, ils ont voulu rapatrier tous ces milieux privés-là dans le système, dans le réseau, en appliquant la même réglementation dans les maisons privées. Ça fait en sorte que ma blonde a dit « C'est pas vrai que vous allez venir fouiller chez nous avec un inspecteur. » Ça fait de quoi? Elle a fermé.
Voilà.
Ben oui, absolument.
Voilà.
Puis c'est toujours ça. En fait, c'est le même problème pour la plupart des programmes où le gouvernement veut tout standardiser. Quand on arrive avec la mentalité du « one size fits all », puis vous savez, moi, l'éducation, c'est un de mes gros sujets là-dessus aussi, c'est qu'on perd une diversité de services. Puis, moi, j'en ai fait du milieu familial avant d'aller en CPE. J'ai l'âge d'avoir pu aller en CPE. Mais moi, j'adorais ça, milieu familial. Puis, c'est pas mal plus personnel. T'as bien une meilleure connexion avec ton éducatrice, avec les autres enfants, puis tout. C'est un milieu qui est à échelle humaine.
Ouais.
C'est
ça a une valeur, ça.
C'est encadré, on est loin des garderies. Moi, les CPE n'existaient réellement pas. Là. Les CPE ont commencé à exister, j'ai fini le secondaire. Donc, quand j'étais au primaire, et même avant ça, avant le primaire, veux pas, j'allais à la garderie, mes parents travaillaient. Mm. Puis c'était en milieu familial beaucoup. Là, quoi que c'est madame, elle s'appelait Francine. Elle gardait facile une vingtaine d'enfants chez eux. Là. Facile, facile, facile. Fallait gérer tout ça. T'sais, c'était pas pour rien que des fois, nos parents allaient nous chercher à l'hôpital parce qu'on s'était cassé le bras. Elle fumait. On était ailleurs complètement. Là. Donc, c'était clair que ça prenait des balises, ça prenait des ajustements. Mais on n'était pas obligé non plus de créer des jobs subventionnés puis un gros système qui devient pratiquement ingérable. Là.
Voilà, parce qu'on peut revenir aux certifications. C'est vrai que ça fait pas foi de tout, mais le gouvernement, pour justement mousser un peu ses garderies subventionnées, c'est mieux que le reste, met beaucoup l'accent là-dessus.
Ben oui.
Puis le pire, en fait, c'est ça l'ironie, c'est qu'il n'est pas capable de tenir sa promesse là-dessus. Tu regardes, là, particulièrement après le COVID, pour créer plus de places, on a baissé les exigences, hein, parce qu'en théorie, il désirait deux éducatrices sur trois qui ont une formation. Dans les faits, c'est plus ça aujourd'hui. Tu regardes les derniers chiffres du vérificateur général, 46 % des établissements de garde n'ont pas deux éducatrices qualifiées sur trois. Fait que là, tu dis, il y a comme un espèce de standard que tu maintiens pour dire, regardez, le réseau gouvernemental est meilleur que le reste, etc.
Ouais.
On n'est pas capable de l'appliquer dans la moitié du réseau. Fait que tu sais, puis à ce moment-là, après, est-ce que la solution, c'est de dire, on va créer encore plus de places subventionnées avec ce barème-là qu'on n'est pas capable d'atteindre dans la moitié des trucs? Tu sais, j'ai l'impression que le tout à la garderie subventionnée, l'idée qu'il y a juste ce modèle-là, c'est l'idée est plus tenable, en fait, parce que, comme en toute chose, la garde, il y a plusieurs facettes à ça. Puis est-ce qu'on est capable d'avoir une politique qui va mieux accommoder ça? Puis aussi la diversité des besoins puis des désirs des parents.
Mais à partir du moment où on a un modèle qu'on voulait universel, qu'on voulait équitable, et on prend acte, là, quoi, une trentaine d'années plus tard, que le modèle n'est ni universel ni équitable, quelle est, selon toi, la meilleure solution? Est-ce que ce serait de garder ce système de CPE-là en place ou simplement dire, écoutez, là, à partir de maintenant, on donne l'argent aux parents, gérez-vous?
Ben, moi, je pense que de donner de l'argent aux parents, c'est quelque chose que, en tout cas, du point de vue du gouvernement, tu vas créer beaucoup moins d'inéquité. Ça, c'est clair. Après, nous, le modèle qu'on met en lumière dans cette étude-là, je trouve ça intéressant parce qu'on n'est pas au courant que ça existe, des modèles comme ça, la Finlande. Eux, ils ont un modèle qui est pluraliste. En fait, ils font les deux. Ils ont un système de garderie qui est financé que les parents peuvent choisir, etc. Mais si les parents préfèrent faire autre chose, s'arranger de leur bord, ils peuvent avoir une allocation aussi. Okay. Moi, j'ai un opting out. De dire que si la garderie ne me convient pas, ben, je vais juste prendre le chèque. Puis ce qui est intéressant aussi, puis ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là, c'est qu'il y a aussi des allocations qui disent plus flexibles. Par exemple, si je veux avoir 3 ou 4 jours par semaine en garderie, je peux prendre le reste pour une journée, deux journées, pour que ça limite un peu le coût de prendre du temps avec mon enfant en bas âge. Parce que on s'entend, c'est pas toute la vie là, qu'on a des enfants qui sont entre 1 et 4 ans environ. Puis si on veut profiter de ce temps-là, bien, il y a un soutien et il y a une reconnaissance de ça aussi, de dire, regarde, c'est correct, puis tu peux faire ton horaire. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les sondages, que ce soit ceux que le gouvernement du Québec fait ou des institutions comme le Réseau Québec Famille, quand tu demandes aux parents, qu'est-ce que vous voulez pour la conciliation travail-famille? La réponse numéro un, c'est jamais... plus de place où mettre mon enfant pendant que je vais travailler. C'est comment je peux avoir plus de temps de qualité avec mon enfant? Comment je suis capable d'avoir un horaire qui va être plus flexible? Comment je suis capable d'avoir peut-être des meilleurs congés quand on veut prendre du temps? Parce que c'est avant que l'enfant rentre à l'école. C'est pas pareil. Là, on en a du temps qu'on peut utiliser. Puis tu sais, est-ce que le gouvernement ne pourrait pas aussi regarder à ça différemment puis dire, OK, le but, c'est pas juste de maximiser le temps qui va être passé en garderie, c'est aussi de faire en sorte que les parents puissent avoir un choix là-dedans, puissent avoir une flexibilité, puis dire quel temps on est capable d'aller chercher.
Puis on se rend compte également que c'est des choses qui reviennent de plus en plus. Là. Il y a une génération qui pousse, qui commence à avoir des enfants qui disent sans nécessairement redevenir aux familles traditionnelles, mais qu'il y ait un des deux parents qui reste à la maison durant le... Tu sais, on le voit, là, que ce soit le père ou la mère, je ne veux pas embarquer dans ces dossiers-là, que chaque famille, mais on voit qu'il y a un intérêt, il y a des gens à qui ça parle, ça. Il y a des gens qui aimeraient ça pouvoir avoir cette option-là.
Oui, ou juste de travailler moins d'heures, tu sais, parce que c'est pas tout ou pas tout non plus. Mm-hmm. C'est pour ça, notamment, que le modèle finlandais, moi, je le trouve intéressant. C'est qu'il y ait carrément un régime qui est adapté pour les gens qui préféraient justement envoyer leur enfant en garderie 3 jours ou 4 jours par semaine. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis de fait, tu peux faire plus avec ton offre.
Ouais.
Parce que si tu as un même nombre de places, un même nombre d'heures qui sont données, mais que tu en as un qui dit, ah, ben, tu sais, moi, je vais te l'envoyer 3 jours, moi, je vais te l'envoyer 4 jours, mais tu peux faire plus avec moi aussi. C'est le fun. Une flexibilité qui n'existe pas en ce moment.
C'est le fun avec la Finlande parce que depuis qu'ils ont exporté leur système de quilles finlandaises, on en connaît de plus en plus.
Et je rebondis là-dessus parce qu'il y a un article dans Le Devoir qui parle justement des tendances au niveau de l'emploi dans la génération Z. Puis je devine que tu es peut-être un petit peu là-dedans avec moi aussi. Là. Puis à 40 % les jeunes veulent avoir une flexibilité de travail. Famille. Fait que le gouvernement va devoir suivre cette mouvance-là parce que c'est les employeurs qui s'adaptent à cette réalité-là.
Puis les
donc,
employeurs aussi, Camille.
C'est ça. C'est eux en premier, mais après, le gouvernement, il va falloir qu'il soit à l'écoute du portrait, du big picture de la société, que là, oh, maintenant, l'alternance travail-famille, donc, je présume, prendre du temps avec les enfants, prend une plus grande place. C'est pas la carrière d'abord. Il y a encore le désir de monter les échelons puis d'être carriériste, mais... pas aux dépens de temps de qualité. Fait qu'il va falloir que le gouvernement regarde, en laisse ses lunettes roses, puis commence à écouter la vision du peuple là-dedans.
Oui, mais d'un autre côté, il faut aussi voir que les employeurs, eux autres, qui ont besoin d'employés, pas quand ils veulent, mais quand ils en ont besoin.
Ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi.
T'sais, à partir de ce moment-là, c'est... chaque famille peut décider de comment ils vont gérer leur patente, mais effectivement, si le gouvernement offre un opt-out, ça peut aider bien du monde. Puis je pense qu'il y a du monde qui va nous proposer ça pendant les prochains mois pour la campagne électorale.
Écoute, je le sais pas, mais tu sais, l'idée de faire la recherche là-dessus, moi, ça m'était venu de quelque chose que j'avais trouvé. Je me souviens quand je travaillais encore pour le gouvernement en 2022 pendant la campagne électorale. Québec solidaire puis le PCQ a proposé quelque chose d'un peu similaire. Puis moi, j'avais trouvé ça drôle. Je me disais, ouais, les deux qui se... Parce que QS avait dit, nous, on va proposer une prestation d'urgence pour ceux à qui le gouvernement n'est pas capable de donner une place pour les coûts que ça engendre, etc. Pour au moins, tu sais, comme compenser ce service-là que le gouvernement te promet puis qu'il n'est pas capable de te donner. Et donc, là, on réalisait aussi qu'on ne pouvait pas juste faire passer le financement par les établissements puis que des fois, de donner de l'argent directement aux parents, c'était pertinent. Là, de l'autre côté, le PCQ nous disait ben justement, le financement seulement pour les établissements, ça ne fonctionne pas. Nous, on va juste donner un chèque de 200$ par semaine à tout le monde. Comme ça, plus d'iniquité. Puis, c'est pas exactement pareil, mais de voir que les deux parties, celui qui est le plus à gauche, celui qui est le plus à droite, s'entendaient que de dire on va juste faire passer le financement par les établissements, puis on va juste essayer de créer des places à chaque année, même si on réussit jamais vraiment à rattraper la demande. Il y avait quelque chose là, tu sais.
Qu'on soit d'accord ou non avec Québec solidaire, puis je sais que la majorité le sont avec le Parti conservateur du Québec, c'est deux partis qui veulent faire vivre le monde plus que la machine.
Oui, bien, c'est deux partis qui pensent aussi en dehors de la boîte parce qu'ils ont cette liberté-là, je pense, puis ils ont ce côté très à cheval sur des principes, puis pour le meilleur comme pour le pire, mais ça permet aussi, justement, comme tu dis, on peut sortir de la boîte, on peut parler à des gens que, disons, les trois partis principaux qui ont une vision de gouvernement qui parfois se ressemble, sauf sur certains enjeux, évidemment, où ils sont très divisés, vont peut-être moins aller. Mais le fait que ces deux partis-là soient capables de proposer des choses différentes, ça apporte beaucoup au débat démocratique.
Le printemps dernier, on a eu oui dire qu'il y avait trois députés conservateurs au fédéral qui étaient chambranlants un peu, qui se faisaient travailler. On parle de Dominique Vien, on parle de Joël Godin dans Portneuf et on parlait aussi à l'époque de Richard Martel. Il s'est fait coincer dans l'ascenseur une couple de fois. Hier, l'expression que tu utilisais pour exprimer à Mark Charney, je l'ai bien aimé. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Richard Martel?
Écoute, moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis honnêtement, ça force quasiment l'admiration. Là. Puis quand on est en retrait un peu de la joute politique, on peut regarder ça avec des lunettes nouvelles. Je me dis, pour vrai, ils sont vraiment machiavéliens. Ils sont forts en tabarouette. Moi, j'aurais jamais pensé à ça si j'étais au PMO, de dire, pour être capable d'avoir un député de plus, vu qu'il va pas vouloir transfuger, je vais nommer un adversaire politique au Sénat. Comme ça, ça va faire une partielle. Puis vu que j'ai des bons chiffres, je vais peut-être gagner la partielle. Tu dis, il y a quelqu'un qui a pensé à son coup de billard qui tape comme 5 bandes avant d'arriver dans le trou. Là. Puis c'est comme... Oui, ils ont bien fait leur affaire, puis le pire, c'est qu'ils ont des chances de gagner cette partielle-là, parce que les conservateurs, ce siège-là, ils le gardaient toujours un peu par la peau des fesses à cause de la notoriété de Richard Martel, ancien coach des Saguenayens, etc., super connu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, moi, je pense que les libéraux, ils ont des vraies chances de gagner. Cela dit, où je suis un petit peu surpris, c'est qu'ils l'avaient atteint, leur majorité. Puis, en tout cas, le bruit autour des transfuges, etc., avait commencé à se calmer un petit peu.
En même temps, tu es à une personne malade ou à un congé de maternité d'un vote qui pourrait passer un peu plus serré, là.
Ouais,
donc, il veut se dégager ça, lui. Il veut se dégager un peu de cette majorité-là. Puis effectivement, puis Richard Martel, il n'est pas épais non plus. Là. Il sait que c'est pour ça qu'il s'est fait offrir la job au Sénat. Mais en même temps, c'est job au Sénat, dirais-tu non à ça, toi?
Ouais, moi, je ne suis pas sûr que ça me tenterait bien. Mais c'est sûr qu'un chèque de quoi? 180 000 par année pour siéger deux jours par semaine?
Voilà.
Ça fait envie.
Moi,
je pourrais sacrer mes livres en paix.
Oui, t'auras assez de paix. C'est quoi le prochain, là?
Oh là là! Ben, en fait, le prochain, c'est la traduction anglaise de Anticivilisation, celui qui est sorti l'an passé.
Oui.
Il va sortir au mois de septembre en anglais avec Sergeant House, qui est un éditeur anglo-canadien.
C'est toi qui le traduis?
Oui. Puis même certaines petites adaptations des fois, parce que quand on parle à un public différent, mes références de politique française québécoise, peut-être que les lecteurs anglo-canadiens, américains, etc., vont pas trop les saisir. Je fais un petit travail d'adaptation à ce niveau-là, mais j'ai bien hâte d'aller présenter ça en anglais, puis on va faire quelques événements aussi dans l'Ouest, etc. Je pense que ça va être bien le fun.
EA Sports, Étienne Alexandre Beauregard, merci infiniment d'être venu nous voir ce matin.
Merci.
Je souhaite de passer un bel été. On va peut-être se reparler cet été.
Ben oui, absolument, avec plaisir.
Assurément de retour dans Morais Live. Merci infiniment à 745.
Bien sûr, merci tout le monde.
Morais. Tu as quelque chose à dire?
Ça va bien aller.
Tu veux réagir? 418-670-9098. Radio X.